VOA Afrique, les infos. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgan Guirièque au micro. Dans quelques instants, l'Amérique et vous sur la visite du pape aux États-Unis. Mais d'abord, je vous propose un tour d'horizon de l'actualité. À l'Assemblée générale de l'ONU, le président américain Barack Obama et son homologue russe Vladimir Poutine étaient les orateurs vedettes ce lundi. Le président américain a parlé de l'importance de la diplomatie dans la résolution des conflits, tout en réaffirmant sa détermination à faire usage de la force quand c'est nécessaire. De son côté, le président Poutine a déclaré que la Russie ne peut plus tolérer l'état des choses dans le monde. Il a de nouveau appelé à la formation d'une large coalition pour combattre les djihadistes et le terrorisme international. VOA Afrique a sur place à New York Tatiana Mosso.
Effectivement, c'est dans un désordre maîtrisé que la 70e Assemblée générale des Nations Unies s'est ouverte avec un peu de retard. C'est d'abord la présidente brésilienne Dilma Rousseff qui a été la première à prendre la parole, suivi ensuite d'un discours forcément très attendu du président américain. Dans la salle quasi comble de l'Assemblée générale, Barack Obama, costume sombre et le visage déterminé, s'est présenté au pupitre dans une aisance impeccable. Ses mots ont été implacables, évoquant la guerre en Syrie, puis l'annexion russe en Ukraine. Plus tôt dans la matinée, c'est le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, qui exhortait les pays européens à faire plus de place en faveur des centaines de milliers de migrants et réfugiés qui affluent vers l'Europe, outre la Syrie qui domine forcément les discussions. Depuis ce matin, il s'agit aussi pour les leaders du monde d'aborder les questions de l'environnement et ainsi que de la bonne gouvernance. Le continent africain n'est pas en reste avec les sujets d'actualité. Entre crise politique et menace terroriste, cette 70e session est aussi largement consacré à l'avenir de la jeunesse africaine. Autre événement de cet après-midi, ici à New York, une réunion de haut niveau entre le président Obama et le secrétaire général de l'ONU concernant les soldats de la paix, alors que Barack Obama a annoncé vouloir contribuer davantage aux missions de maintien de la paix.
Tatiana Mosso à New York. En République centrafricaine, la capitale Bangui reste paralysée par les violences. Au moins 6 personnes auraient été tuées aujourd'hui dans une manifestation non loin de la présidence. On fait le point avec notre correspondant Freeman Sipila.
Bangui ressemble aujourd'hui à une ville ruinée par la guerre. Aucun véhicule n'était jusqu'en début de soirée visible sur les artères de la capitale. Seuls des hommes armés faisaient des va-et-vient à moto. Les barricades ont rapidement gagné toute la ville. Les manifestants scandaient des slogans hostiles aux forces françaises de la Sangaris et aux casques bleus de la MINUSCA. Dans la matinée, plusieurs dizaines de personnes qui marchaient pacifiquement en direction de la présidence de la République pour réclamer la paix ont été dispersées à balles réelles par les forces internationales. Au moins 6 manifestants ont trouvé la mort et un petit nombre blessés. La situation devient de plus en plus incontrôlable car il est difficile d'identifier tous ces hommes en armes circulant dans la capitale. En début de soirée, les soldats français de la Sangaris ont tenté de dégager l'avenue des martyrs menant à l'aéroport. Au fur et à mesure que leurs véhicules passaient, les manifestants ramenaient les barricades. Par ailleurs, les tirs à l'arme lourde et légère ont baissé ce lundi dans les zones où se sont déroulés les affrontements de ces 2 derniers jours. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Attaque d'un convoi de fonds dans l'est de la République démocratique du Congo. 13 personnes, 11 soldats escortant le convoi et 2 civils ont été tués dans le district d'Uvira. Les 40 000 dollars transportés étaient destinés à payer des enseignants, selon le gouvernement congolais. Burkina Faso, le désarmement du régiment de sécurité présidentielle est au point mort, mais les négociations continuent. Sur place, Issa Napon nous en dit plus.
Ce processus de désarmement est à l'arrêt depuis hier, selon les communiqués du chef d'état-major général des armées, qui appelle la population à se tenir prête à suivre les consignes de sécurité qui pourraient être incessamment données. Le général Sengrena Mazagré accuse dans le même communiqué le RSP de créer des incidents pour entraver l'opération en cours depuis vendredi dernier. L'occasion pour le chef d'état-major général des armées d'attirer par la même occasion l'attention de l'opinion nationale et internationale sur cette impasse créée par le chef de putschiste, le général Philibert Nyerere. Un rebondissement mêlé à des rumeurs difficiles à confirmer mais qui enflent sur les réseaux sociaux sur une probable arrivée de troupes djihadistes en appui aux putschistes. des mouvements actifs comme le Ballet Citoyen et le M21 avaient pourtant récemment lancé un appel à ne pas s'en prendre aux militaires qui désarment, accédant à une inquiétude majeure du RSP. Au moment où des unités blindées de l'armée régulière quadrillent la ville et répondant à l'appel du gouvernement aujourd'hui à la remobilisation des populations, plusieurs leaders de la société civile, dont Hervé Ouattara du CAR et Marcel Tancono du M21, ont appelé les populations à se tenir prêtes à reprendre la rue pour, disent-ils, exiger l'arrestation immédiate des putschistes. Issa Napé, Ouagadougou, Iwa Afrique.
Manifestation de l'opposition à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Les adversaires du président Alassane Ouattara demandent un accès équitable aux médias publics à un mois de la présidentielle du 25 octobre. D'après l'AFP, l'ancien Premier ministre Charles Konan Bagny, l'ex-président de l'Assemblée nationale Mamadou Koulibaly et le député Bertin Konan Kwadio, tous candidats, ont pris part au cortège formé de centaines de manifestants, principalement des jeunes, venus dénoncer la mainmise du pouvoir sur la radio-télévision ivoirienne. Présidentielle au Bénin, l'homme d'affaires Patrice Talon se prépare activement pour le scrutin de février 2016. C'est ce qu'ont indiqué ses proches collaborateurs à l'AFP. Principal opposant au président Boni Yayi, Patrice Talon est en exil depuis 2 ans. Le fils du président guinéen Alpha Condé, visé par une enquête préliminaire en France. L'investigation porte sur le financement de son train de vie lors de ses passages à Paris. Après la plainte d'une ONG. C'est ce qu'annonce une source judiciaire à Paris, citée par l'AFP.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
À Guinée-Bissau, le gouvernement de Carlos Correa aura 33 membres. La proposition de cet organigramme a été approuvée aujourd'hui lors de la réunion du bureau politique du Parti africain de l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, qui a duré plus de 10 heures. On fait le point avec Nouma Mankali.
À la sortie de la réunion, le leader du PAGC, Domingo Simons Pereira, a confirmé que la proposition avec les noms et la structure du nouveau gouvernement seront présentées au président de la République, José Mario Vaz, en ce début de semaine. Simons Pereira a également confirmé que le nouvel exécutif aura une composition différente sans préciser le nombre de portefeuilles. Cependant, une source crédible assure que le nouveau gouvernement de Carlos Correa aura 33 membres, dont les ministères et les secrétaires d'État. Cependant, on rappelle que le gouvernement renversé qui était dirigé par Domingo Simons Pereira avait 30 éléments. À propos de la formation de ce nouveau gouvernement, une délégation du PAGC a été mandatée pour négocier avec les partis politiques d'opposition et la société civile. Nouaman Kalibissau, VOA Afrique.
Destruction de mausolée à Tombouctou au Mali. Le Touareg Ahmad Al-Faki Al-Mahdi, leader d'un groupe islamiste lié à Al-Qaïda, comparaîtra mercredi devant la Cour pénale internationale pour destruction d'édifices religieux en 2012. Migration vers l'Europe. 257 migrants ont été secourus ce lundi au large de la Libye par un bateau de Médecins sans frontières. C'est ce qu'a annoncé à l'AFP un porte-parole de l'organisation humanitaire. Et puis, lutte contre Al-Shabaab en Somalie. Le Royaume-Uni va envoyer quelques 70 soldats en Somalie pour être, au Soudan du Sud, jusqu'à 300, pour aider à renforcer la sécurité dans la région. C'est ce qu'a annoncé un porte-parole du Premier ministre britannique David Cameron. David Cameron qui devrait confirmer cet envoi lors de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Une offensive des talibans à Kunduz, dans le nord de l'Afghanistan, a permis aux insurgés de contrôler en début de soirée la moitié de cette ville stratégique située sur la route qui relie Kaboul au Tadjikistan. Les talibans ont pris l'hôpital principal et le bureau du gouverneur, forçant la population civile à fuir par centaines. Comme le souligne un correspondant de l'AFP, la chute de Kunduz serait un très grave revers pour le président afghan, Ashraf Ghani, qui avait promis lors de son élection en 2014 de ramener la paix dans son pays. Et le pape François est retourné au Vatican après une tournée qui l'a conduit à Cuba et aux États-Unis et durant laquelle il a insisté sur des thèmes tels que l'immigration, l'écologie ou la famille. Dans l'avion qu'il ramenait au Saint-Siège, le souverain pontife a fait d'intéressantes déclarations condamnant la pédophilie au sein du clergé catholique. Voilà pour ce bulletin d'information. Au micro, c'était Morgane Guiriec. Et tout de suite, c'est l'Amérique et vous sur justement cette visite du pape aux États-Unis.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.